Bonjour. Avec Kadia, nous allons vous parler de la prise en charge du burn-out. Avec les thérapies cognitives et comportementales, ce sont les thérapies qu'on utilise à EPASS. Donc moi, dans un premier temps, je vais rapidement essayer de vous définir ce qu'on entend par thérapie cognitive et comportementale. Donc, ce sont des thérapies qu'on dit brèves, c'est-à-dire qu'on essaie de les limiter dans le temps. Ce sont des thérapies qui sont validées scientifiquement. Je pense que c'est important. Des thérapies qui sont issues des théories de l'apprentissage. Quand on parle d'apprentissage, il faut bien comprendre que les TCC partent d'un postulat, le postulat suivant, c'est qu'on apprend à réagir face à une situation donnée et souvent pas de manière adaptée, ce qui va générer une souffrance. Donc nous, on est confiants en disant si on apprend un certain comportement, on peut le désapprendre. Elles sont ancrées dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire que les patients qui arrivent, ils arrivent avec des problèmes actuels. Donc on va partir de ces problèmes-là et puis on va essayer de trouver ensemble des modifications. Ce sont des thérapies qui sont basées sur une relation thérapeutique interactive et collaborative. Donc là, c'est ce que vous avez un peu expliqué, hein, en disant qu'avec EPASS, enfin avec les psychologues, vous avez pu trouver cette collaboration. C'est-à-dire que le patient, il arrive lui avec son vécu, son désir de changement et nous, on a nos outils. Et c'est ensemble qu'on va définir la problématique qui est spécifique et tenter d'y remédier. Donc c'est vraiment un échange. Et la demande peut provenir soit du patient, soit dans certains cas du médecin traitant ou du médecin du travail. Donc les thérapies cognitives et comportementales, très brièvement, hein, si on doit les définir, on part d'une situation que le patient amène, hein, vous avez bien compris. À partir de cette situation, on va regarder les interprétations qui sont faites par le patient, c'est-à-dire les pensées. De ces pensées-là, il va y avoir des émotions qui vont être générées, et des comportements qui vont être mis en place. Donc on va rentrer dans une espèce de cercle vicieux, parce qu'à ce moment-là, il y a des conséquences chez le patient qui vont lui permettre, en fait, à chaque fois qu'il va se retrouver dans cette situation-là, il va retrouver les mêmes pensées, les mêmes émotions et les mêmes comportements. Et c'est ce que nous, on appelle l'analyse fonctionnelle et c'est ce qui va nous permettre de définir les objectifs après le travail. Donc ça, c'est un schéma qui est assez important pour les psychologues qui font des TCC. Les principales étapes pour les TCC, dans un premier temps, c'est l'accueil du patient, parce que, comme je vous disais, c'est vraiment une relation en collaboration. Donc il faut bien comprendre la demande, on recueille les informations, on regarde les attentes, les motivations, bien sûr. Ensuite, on va procéder à l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment ce qui va nous permettre de définir le problème et de mettre en relation les comportements, les émotions et les pensées. Donc, Kadia vous en parlera un peu plus tout à l'heure avec des cas cliniques. À partir de là, donc, on met les objectifs, hein, en place, on les délimite. Et comme je vous disais, on valide, hein, ce qu'on fait. Donc, on va passer à une phase d'évaluation. Donc, on fait passer un pré-test, où je vous montrerai tout à l'heure, pour voir un peu, pour mesurer en fait l'efficacité de notre thérapie. Donc après, effectivement, on utilise nos techniques cognitives et comportementales, et puis la phase d'évaluation, le post-test. Donc voilà. Au niveau du burn-out à proprement parler, on a plusieurs objectifs, hein, que vous avez pu voir. C'était de favoriser le retour à la vie professionnelle. Dans les témoignages, on voit que soit on retourne sur le même travail, soit on va retourner sur un autre métier. Mais l'objectif, c'est vraiment de retrouver son sentiment de compétence professionnelle. Ensuite, on va se recentrer sur les valeurs du patient. Et les valeurs, là, on va les définir comme des directions de vie. C'est-à-dire que ce sont des principes qui sont directifs, qui sont sous-jacents, excusez-moi, à nos actions quotidiennes. Et puis, on va apprendre à lâcher prise. Donc là, vous en parliez tout à l'heure, hein, avec le yoga, avec d'autres techniques. Donc, on va utiliser la relaxation. Et puis la méditation, la pleine conscience. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, objectifs importants. Là, je vais vous énumérer les symptômes, même s'ils ont été bien dits tout à l'heure. Dans un premier temps, il y a les symptômes émotionnels, avec un épuisement émotionnel et un sentiment où on ne ressent plus rien. D'autres, ça va être la peur, l'anxiété, l'irritabilité, la colère, la culpabilité, voire même le rejet, le mépris, hein, on s'isole. Au niveau des symptômes cognitifs, on est dans une forme de résignation, une impuissance apprise, c'est-à-dire quoi que je fasse, je n'y arrive pas. Il y a une forme de dévalorisation aussi des compétences professionnelles humaines, une diminution du sentiment d'accomplissement professionnel. On a aussi les troubles de concentration et de mémoire que vous avez bien décrits, et les difficultés à prendre des décisions et ce sentiment d'un manque de reconnaissance et de soutien, que ce soit professionnel ou de l'entourage. Au niveau des symptômes comportementaux, ça aussi, on fait attention parce qu'on voit, ça peut être aussi des signaux d'alerte hein, avant de complètement être dans le burn-out. Ce sentiment d'isolement social, ce repli sur soi. Tout à l'heure, vous avez parlé d'agressivité. C'est vrai que dans certains cas, on a une forme d'agressivité. Et dans d'autres cas, on a des addictions. Pour tenir le coup, on va avoir recours à des addictions. Donc évidemment, il y en a d'autres, hein, des symptômes. Avant de laisser la parole à Kadia, donc, quand on reçoit ces personnes en thérapie, on a donc la phase d'évaluation que je vous disais. Donc je vous ai juste mis les deux questionnaires pour qu'on comprenne bien. On vous fait passer deux échelles. Et celle de Maslach et puis le questionnaire de Beck, c'est pour voir un peu la dépression derrière. Et puis une information que je trouve importante à donner aux patients, c'est que c'est un processus qui touche toute personne dite saine, voilà, motivée, compétente, qui face à une situation difficile vont tenter de mettre en place des mécanismes adaptés, mais malheureusement qui vont être infructueux dans un tel contexte. Donc c'est vraiment important, ça touche tout le monde. Explorer les ressources des patients, ça aussi, ça a une importance hein, qu'on fait en début de thérapie, c'est-à-dire qu'on essaie de voir dans l'entourage des gens bienveillants ou bien des collègues, et puis on va regarder la vie d'avant, c'est-à-dire avant ce sentiment de burn-out, enfin avant ce processus, ben, de quoi était fait ma vie, quelles étaient mes activités pour pouvoir un peu reprendre la main sur sa propre vie. Là, je vous ai listé quelques attentes que les patients nous donnent quand ils arrivent, et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de prévenir les rechutes. Donc tout ce qui est apprentissage des contrôles des signes physiques, c'est aussi important parce que pour plus tard, quand on sort du burn-out, il faut connaître nos signes. Apprendre à gérer les émotions, les reconnaître, hein, on verra tout à l'heure. Apprendre à se relaxer, développer des pensées positives, c'est surtout ne plus ruminer. Donc là, on est sur de la restructuration cognitive. Au niveau de la résolution des problèmes, apprendre à mieux gérer, hein, s'organiser, au niveau de la gestion du temps aussi. Et puis toutes les techniques d'affirmation de soi, qui seront aussi développées tout à l'heure. Et puis un dernier point qui me semble important, c'est peut-être d'être plus dans l'acceptation que dans l'évitement des émotions et des pensées. Donc voilà, pour ce premier point, juste en... Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'analyse fonctionnelle qui nous semble, enfin qui nous est la base de notre travail. Son but, hein, c'est vraiment de déterminer les facteurs déclenchants et les facteurs de maintien qui font que le comportement problème va perdurer dans le temps. C'est à partir de là qu'on va pouvoir définir nos objectifs. Et puis, une fois que le patient a compris en fait, cette interactivité qu'il y a entre les ensembles de ces variables, il va pouvoir lui-même assouplir, agir, en tout cas modifier ses pensées, ses comportements. Donc voilà, je laisse la parole à Kadia.
Merci Agnès. Alors moi, pour étayer les propos d'Agnès, donc je vais vous présenter un cas fictif, un cas clinique, voilà, de patients qu'on peut, enfin, vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître des personnes de votre entourage. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Alors on l'a appelé Monsieur D, il a 43 ans, donc c'est un comptable d'une entreprise depuis 15 ans, en arrêt de travail depuis 2 mois. Donc, il décrit des facteurs déclencheurs de son épuisement professionnel qu'il remonte à 2 ans par un changement de supérieur hiérarchique, hein, son N+1, qu'il décrit comme flou, incohérent, donnant des ordres dans tous les sens. Voilà, on pourrait aller un peu plus loin, bon, c'est pas l'objectif, mais voilà, avec un changement donc, au niveau des styles de management. Le patient, Monsieur D, n'a pas voulu s'arrêter avant pour ne pas abandonner ses collègues. Hein, des témoignages l'évoque justement. Alors souvent, ces patients ont un discours marqué par il faut continuer, je dois aider mes collègues. Voilà, ce sont des injonctions qu'on s'impose aussi à soi-même parfois. Et là, oui, je dois changer de PowerPoint. Merci Agnès. Donc là, on va reprendre une situation que peut présenter Monsieur D, donc son N+1. Voilà. On part bien sûr en fait, de situations que le patient a vécues. Par exemple, soit la dernière fois où vous vous êtes senti dépassé, épuisé, anxieux. Et puis à partir de là, on va construire en fait, le cercle vicieux avec lui pour identifier ce qui se passe dans la tête du patient et dans son corps et dans son comportement. Donc on va identifier, par exemple, quand le N plus 1 lui demande de faire un dossier avant de partir, au dernier moment, voilà, une situation un peu anxiogène, eh ben, il va avoir dans la tête des pensées qui vont être « j'en ai marre, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le temps », etc. Donc il y a des émotions qui vont arriver, comme la colère, l'agacement, la tristesse et la culpabilité. Et puis des comportements que le patient va mettre en place. On lui demande, voilà, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Comment vous avez réagi ? Et il va nous dire, par exemple, je reste plus longtemps au travail, donc investissement, voire surinvestissement, je prends un café, je fume une cigarette, je râle dans ma tête, je ne dis rien, par exemple. Donc là, on met en évidence un cercle fermé qui va entretenir des émotions qui ne sont pas forcément... râler dans sa tête, ben, on va être un petit peu plus agacé, donc ben, on va toujours en avoir marre. Et puis ben, peut-être avoir encore moins de temps, parce que pendant qu'on râle, on est parfois moins efficace, et puis avoir le même comportement. Donc on va travailler avec le patient pour essayer de mettre en place des comportements alternatifs. Par exemple, on parlait de l'affirmation de soi, ça sera par exemple apprendre à dire non à son N plus 1. Et on imagine que c'est pas évident. Ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Donc on va en discuter avec le patient, savoir voilà, quels sont les avantages et les inconvénients de mettre en place ce comportement. Puis de s'entraîner aussi par des jeux de rôle, en toute sécurité, en consultation, avant de le tester en réalité. C'est important de prendre son temps aussi quand on essaie de s'affirmer, par des techniques d'affirmation de soi, où l'objectif, c'est d'exprimer ce qu'on souhaite, ce qu'on ressent, avec respect et empathie. Voilà, et puis savoir dire non, parfois, c'est très utile. Alors les conséquences de ce nouveau comportement, on va le discuter, mais c'est aussi de mettre en évidence les avantages, comme j'agis en m'exprimant. Ainsi, on peut éviter de ruminer. Hein, quand on agit, ben, les pensées, on les met un petit peu de côté à ce moment-là. On va négocier aussi plus facilement avec son N plus 1, avec ses collègues, mais on peut l'utiliser aussi en dehors, hein, donc, auprès de ses proches, les amis. Hein, l'affirmation de soi n'est pas réservée au travail. Et puis, on peut être moins fatigué parce qu'on va respecter son rythme et ses besoins. Voilà un des avantages de modifier ses comportements ou d'en avoir de supplémentaire. Puis on va aussi développer d'autres types de comportements, discuter avec le patient, des comportements possibles dans l'entreprise. Hein, parfois, il est difficile aussi de pouvoir dire non à son employeur ou à son N plus 1, ça peut être coûteux. Donc on va voilà, essayer de développer d'autres stratégies, comme rechercher la collaboration d'un collègue, négocier une échéance plus grande avec son supérieur, ne faire qu'une partie du travail, exiger une pause nécessaire pour la concentration. C'est important de parler, de faire attention à son corps. Exprimer aussi ses difficultés face aux urgences répétées et les conséquences sur son bien-être. C'est important aussi, c'est l'affaire de tous aussi, d'exprimer les difficultés au travail. C'est pas évident, bien évidemment, mais plus on est nombreux à en témoigner, et plus on a de chances de pouvoir être entendu. Donc développer un éventail de comportements, ça permet donc une adaptation à différentes situations, et on voit que ça va au-delà du travail, parce que dans la vie de tous les jours aussi, on peut appliquer ces comportements, et d'être plus souple aussi envers soi-même et puis les autres, ça peut éviter des frustrations. Je vous montre un autre exemple, là on va plus se centrer sur la gestion des émotions, avec par exemple, Monsieur D rentre chez lui, puis il s'inquiète quand même de sa situation professionnelle, parce qu'il se sent moins efficace, parce que ça se passe mal au travail, et puis il va imaginer des choses plutôt dramatiques, hein, on appelle ça les pensées automatiques, par exemple, je vais perdre tous mes clients, je vais perdre mon travail, ils vont me licencier, donc c'est quand même, ça génère des émotions plutôt désagréables, comme l'anxiété, la peur, le désarroi, et puis la fatigue également peut être présente. Les comportements que le patient peut mettre en place à ce moment-là, c'est « je travaille le soir après le travail, je ne montre pas que je n'y arrive pas, hein, je fais comme je peux, je ne dis rien, et puis je peux prendre un anxiolytique », c'est un exemple, mais ça peut être tout un tas d'autres produits ou d'autres techniques. Alors, des fois, on se rend compte aussi que les patients arrivent encore à se ressourcer. Et ils peuvent aussi dire, plutôt que de fumer, je vais faire de la peinture, je vais me promener, je vais regarder la télé, je vais lire. Ça met aussi en évidence qu'il y a encore des comportements qui sont adaptés, qui apportent au moins du plaisir. Ça, c'est important. Donc là, le travail, c'est un peu synthétique, mais l'objectif, c'est de faire comprendre aux patients que les émotions, qui sont parfois mises vraiment de côté, hein, on parlait justement de l'épuisement émotionnel, c'est de faire de nos émotions nos alliés. Par exemple, la colère, ça peut suggérer qu'on ne respecte pas nos limites. Donc c'est important de se demander, tiens, quelle limite n'est pas à respecter ? Et puis dans ce cas-là, on peut les exprimer aux autres. on a plus de chances aussi que les autres les comprennent et qu'ils les respectent. L'anxiété, hein, c'est des inquiétudes qu'on a pour ce qui pourrait se passer, bah, ça permet aussi d'identifier des fois ce qu'on redoute, hein, perdre son travail, perdre ses clients. Donc c'est aussi l'utilité de l'anxiété, c'est de réfléchir à cette possibilité, c'est déjà organiser le risque et puis mieux s'y adapter si jamais ça se produit. Hein, c'est pas marrant l'anxiété, mais c'est utile. Avoir peur d'être infantilisé, harcelé ou insulté, c'est, quand on ressent cette émotion, c'est aussi utile parce que ça nous dit qu'il faut peut-être qu'on se protège. Voilà, en affirmant, technique d'affirmation de soi, notre besoin de respect, ou en demandant de l'aide si nécessaire, et si ce n'est pas possible, en le signalant aussi. Le fait de culpabiliser aussi est une émotion voilà, qui peut être utile pour nous questionner, est-ce qu'on a fait une erreur ou pas ? C'est possible, on est un être humain, on fait des erreurs parfois. Donc on peut aussi voir si cette erreur elle est justifiée ou pas, auquel cas si elle n'est pas justifiée, peut-être que cette émotion est malsaine et vient s'ajouter au cercle vicieux et renforcer les problèmes. Voilà. Donc on peut aussi travailler sur, sur des méthodes de relaxation, hein, pour accepter les émotions, comment faire face quand on est anxieux pour supporter l'anxiété assez longtemps, parce que souvent on veut vite que ça parte, donc on fait plein de choses vite pour que ça se calme. Donc on fait aussi de la psychoéducation, on explique aux patients voilà, comment on vit une émotion, ben, comment on la gère, comment on évite de l'envenimer en quelque sorte. On apprend aussi à identifier les différentes émotions qui nous animent, parce que parfois on ne fait plus la part des choses, on ne sait même plus ce qu'on ressent, donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et puis repérer les pensées, les comportements qui maintiennent les émotions désagréables. Alors, on peut prendre aussi l'exemple d'un patient qui est anxieux avant d'aller au travail, parce que ça se passe mal, donc forcément, il est inquiet, il ne sait pas comment ça va se passer, ce qu'on va lui demander, par exemple, comme travail à fournir dans la journée. Donc, il peut, l'anxiété, hein, ça peut être très coûteux à long terme. Pourquoi ? Parce que on peut mettre des comportements en place, comme ne pas aller travailler, être en retard, consommer des produits licites ou illicites pour s'apaiser. Les conséquences, c'est que ça va apaiser à court terme, parce qu'à long terme, il y a certains comportements qui peuvent être très coûteux. Mais aussi, et ça, c'est la problématique de ces émotions-là, c'est que parfois, ça se généralise. Hein, justement, on a peur d'aller au travail parce qu'il y a des bonnes raisons, hein, mais on a peur aussi de rentrer dans sa voiture. On peut avoir peur du téléphone qui sonne, des mails, puis du réveil. Puis notre costume préféré qu'on va mettre au travail quand on fait des réunions, enfin voilà, ça peut vraiment généraliser à tout un tas de situations. Et là, peut-être que ça vous parle, hein, on a tous des situations comme ça où il suffit qu'on ait en face de nous quelque chose qui se rapporte au travail ou un autre événement qui nous fait peur pour générer de l'anxiété. Voilà. Donc c'est coûteux, ça ne résout pas forcément les problèmes réels et à long terme, et ça risque de multiplier les problèmes. Hein. Vous avez vu juste au-dessus le nombre de problèmes à résoudre ensuite, qui est un petit peu plus compliqué. Ça peut générer de la culpabilité, de la honte, voilà, des émotions quand même très désagréables. Donc on fait par exemple, on apprend enfin, avec le patient, on essaie de décrire des situations qui sont anxiogènes par exemple, de la moins anxiogène à la plus anxiogène, donc là c'est vraiment très schématique, hein, mais après on va un petit peu au-delà, donc c'est, ça peut être penser aux collègues, parler du travail, monter dans la voiture, voir l'enseigne de l'établissement, voir son N+1, donc on peut voir que l'anxiété elle peut monter et voir être insupportable, et puis on va exposer le patient. Souvent, en imagination, on va lui dire, imaginez la situation, vous êtes en voiture, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, pour qu'en fait, il s'habitue à l'émotion et qu'il puisse mieux l'affronter. Voilà. Mais on fait ça progressivement, hein, on évite justement de mettre le patient en grande difficulté, parce que pour apprendre à gérer les émotions, il faut y aller doucement. Alors, ces exercices, ils permettent de faire l'expérience du coup réel d'une émotion, hein, souvent qui est moins dramatique qu'on peut l'imaginer. Et puis de s'habituer à l'émotion et de moins fuir ce qui peut être associé à ce qu'on redoute, hein, comme le costume, la voiture, le téléphone. Voilà. Si on peut limiter au moins ça, eh ben, c'est un petit peu moins difficile au quotidien. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole au docteur Dubré, qui va m'aborder donc, l'accompagnement des patients.